quoi. Voilà, c'est bien. Continuez, continuez.
Chacun est donc appelé à dessiner les deux cases suivantes pour compléter le strip. Florence Sestac.
Je pense que les gens peuvent aller plus loin s'ils ont envie, rajouter des cases et tout. Je veux dire, on n'est pas obligé de tout rentrer en quatre cases parce que c'est pas facile.
Lundi prochain, c'est l'autre parrain de l'année de la BD, le dessinateur Jules, qui offrira deux cases à compléter.
Et les créations des internautes sont à publier sur les réseaux sociaux avec le hashtag Toute la France dessine. Une sélection sera exposée l'année prochaine au Festival d'Angoulême. Ainsi se termine ce journal.
Radio G, 101.5 FM.
Cadre d'impromptu, carnet de voyage. Aujourd'hui, les îles du Pacifique.
Notre planète est, pourrait-on dire, hémiplégique. Une moitié étant presque totalement dépourvue de terres émergées. Il y a davantage de continents dans l'hémisphère nord et moins dans le côté pacifique que dans le côté atlantique. Il ne s'agit d'ailleurs ici ni de nord, ni de sud, ni d'est, ni d'ouest. Prenez un globe et faites-le tourner d'une certaine manière, vous ne verrez plus que de l'eau parsemée de quelques îles. C'est l'hémisphère du vide. On traverse rarement cet hémisphère-là. Le fret maritime lévite et passe au nord, le long de l'Asie et des Amériques. Seuls s'y risquent les voiliers des courses autour du monde et les avions qui desservent les îles d'Océanie. Le Pacifique, contrairement à ce que l'on entend partout, n'est pas et ne sera jamais le centre du monde. L'urgence s'est jointe à ce désir et les a chassés vers l'horizon, contre vent et courant, dans la direction du soleil levant. Peut-être ces hommes cherchaient-ils à retrouver la terre de leurs ancêtres, là où vivent les morts. Peut-être témoignait-il de cette simple curiosité qui est dans la nature humaine et qui fait que, s'ils avaient su que le monde se finissait dans un abîme sans fond où s'engloutissent la mer et la terre, ils seraient allés y voir. L'oiseau a glissé un long moment, silencieusement à côté de la pirogue, et même si ça n'était pas Litchi qui s'affole à frôler la lagune en chassant des moustiques. Manta Tare était contente de le voir. C'était un être vivant, peut-être un messager de la chance. Elle a écarté un pan de la natte pour que sa fille, Matante Kabis, puisse apercevoir l'oiseau. Mais le vent froid a fait pleurer le bébé qui s'est rendormi en tétant. Ensuite, les hommes ont recommencé à ramer. Sauf un bref instant, quand le soleil a éclaté au-dessus de l'horizon et que la vieille Mantanva leur a donné à manger de la pâte d'igname dans une écuelle. La mer est d'un bleu intense, il n'y a pas de nuages dans le ciel. Lorsque la pirogue a quitté la grande terre, ils ont cru mourir. Le premier soir, en passant au bout de la grande terre, devant les îles, devant l'île des hérissons, le vent s'est mis à tourbillonner, les vagues cognaient la pirogue en venant de tous côtés à la fois. L'habitant a descendu la voile de peur que le mât ne casse. Les vagues recouvraient la plateforme où étaient amarrées les plantes et les vivres. Malgré le bruit de la tempête, l'on entendait distinctement les cris de terreur de l'unique cochon dans sa cage de bambou. Puis, à un moment donné, les femmes ne l'ont plus entendu et malgré les vagues, Manta Tare a rampé jusqu'au centre du plancher en s'accrochant au bras du flotteur et en tenant sa fille serrée contre sa poitrine. Elle a tâté la cage et à travers les barreaux, elle a touché les poils du cochon qui ne bougeait plus. Elle a dit tout haut, pour elle seule, « Il est mort ». C'est en revenant vers la pirogue que la vague l'a frappée si fort qu'elle a senti sa fille s'en aller. Elle a crié de désespoir et Mantansi s'est jeté vers elle, sans la voir. Et elle a rattrapé le bébé par un bras et elle l'a tiré vers le fond de la pirogue. Quand Matantare est revenue dans la pirogue, tout son corps tremblait de froid, de peur. Et quand elle a senti contre elle le petit corps chaud de sa fille, elle était comme si elle la mettait une deuxième fois au monde. Après, elle s'est couchée au fond de la pirogue, malgré l'eau de mer qui remplissait la coque, malgré le bruit du vent et les coups des vagues, et elle s'est endormie. La terre est proche. T'habitant a goûté l'eau de mer, il dit que dans 2 jours, peut-être moins, ils arriveront à Raga. Il n'y a pas encore d'oiseaux, mais l'air est plus lent. La houle s'est alourdie et des bandes d'exocètes voltigent devant l'étrave.
Quand les deux yeux fermés, en un chaud soir d'automne, je respire l'odeur de ton sein chaleureux, je vois se dérouler des rivages heureux qu'éblouissent les feux d'un soleil monotone. Une île paresseuse où la nature donne des arbres singuliers, des fruits savoureux, des hommes dont le corps est mince et vigoureux, et des femmes dont l'œil, par sa franchise, étonne. Guidé par ton odeur vers de charmants climats, je vois un port rempli de voiles et de mâts, encore tout fatigué par la vague marine, pendant que le parfum des vers tamariniers, qui circulent dans l'air et m'enflent la narine, se mêle dans mon âme au chant des mariniers. La réalité est tristement banale. Les îles du Sud ont été non seulement les fourre-tout du rêve, mais aussi le rendez-vous des prédateurs. Là où il existait, on coupait le bois de santal. On pêchait sans retenue l'holothurie ou la baleine. On faisait un grand massacre de tortues marines et d'oiseaux. Puis, lorsqu'il n'est plus resté que des hommes, les planteurs du Queensland ou des Fidji, les mineurs de Nouvelle-Calédonie, s'y sont servis en esclaves. Les îles du paradis ont été d'abord un enfer pour les bagnards et les prostituées. Dans des temps plus récents, le Pacifique a été le théâtre d'une guerre sans merci, puis est devenu le champ d'expérimentation à ciel ouvert des armements nucléaires. Devait-on se gêner? Ces archipels lointains n'étaient-ils pas, depuis leur conquête, Mare Nullius, la mère de personne? N'avait-on pas tous les droits pour en disposer, ainsi que de leurs habitants, sans aucune vergogne? Divisés, morcelés, répartis entre les grandes puissances coloniales, le continent pacifique devenait invisible, un non-lieu peuplé de sauvages naguères cannibales, ou, ce qui revient au même, un Éden où tout était en abondance, les fleurs, les fruits, les femmes.
Depuis le début du XXe siècle, on a pu mesurer ce qu'ont coûté en pertes humaines les expéditions de découverte des Européens et des Nord-Américains dans le Pacifique. Tom Harrison, dans Savage Civilization, fait un rapide calcul de l'effondrement de la population aux Nouvelles Hébrides en un peu plus d'un siècle. 1800, estimation à 1 million d'habitants. 1882, 600 000. 1883, 250 000. 1892, moins de 100 000. 1911, 65 000. 1920, 59 000. 1935, 45 000. Les principaux responsables de la dépopulation furent, selon Harrison, les oreillons, la grippe, le choléra, épidémie de 1836, la variole, la tuberculose, la coqueluche, la scarlatine, la méningite, la diphtérie, en suivant à peu près cet ordre d'importance.
Thank you.
lisons dans le récit du premier voyage du capitaine James Cook, 1768-1771, ses impressions lors de la découverte de l'île de Tahiti. Ce sont partout des bocages de fruits à pain et de noix de coco sans broussailles et entrecoupés de chaque côté par des sentiers qui conduisent d'une habitation à l'autre. Rien n'est plus délicieux que les ombrages dans un climat si chaud et il est impossible de trouver de plus belles promenades. Comme il n'y a point de broussailles, on y goûte la fraîcheur. Un air pur y circule librement et les maisons n'ayant point de murailles, elles reçoivent le zéphyr et les vents du côté qu'ils soufflent. Les végétaux forment la plus grande partie de leur nourriture. Nous avons déjà dit qu'excepté les cochons, les chiens et la volaille, ils n'ont point d'animaux apprivoisés. Et ceux-là même n'y sont point en grande quantité. Lorsqu'un chef tue un cochon, il le partage presque également entre ses sujets. Et comme ils sont très nombreux, la portion qui revient à chaque individu dans ces festins qui n'arrivent pas souvent est nécessairement très petite. Les Tahitiens du commun se régalent plus fréquemment avec des chiens et de la volaille. Je ne puis pas vanter beaucoup la saveur de leur volaille, mais nous convînmes tous qu'un chien de la mer du Sud était presque aussi bon qu'un agneau d'Angleterre. Ils ont probablement cet excellent goût parce qu'ils se nourrissent uniquement de végétaux. On imagine bien que la cuisine chez ce peuple n'est pas un art bien perfectionné. Ils n'ont que deux manières de faire cuire leurs aliments, l'une de les griller et l'autre de les faire cuire au four. L'opération de griller quelque chose est si simple qu'il n'est pas besoin de la détailler ici. Ils apprêtent fort bien les cochons et les gros poissons et, suivant nous, ils sont plus succulents et plus également cuits que dans nos meilleures cuisines d'Europe. Ils cuisent aussi du fruit à pain dans un four. Il s'adoucit alors et devient assez semblable à une pomme de terre bouillie, sans être pourtant aussi farineux qu'une pomme de terre de la meilleure espèce. Ils apprêtent le fruit à pain de trois manières. Ils y mettent quelquefois de l'eau ou du lait, de noix de coco, et le réduisent en pâte avec un caillou. D'autres fois, ils le mêlent avec des fruits du plâne, mûr ou des bananes, ou ils en font une pâte aigrelette qu'ils appellent maillie.
Voici ce que l'on trouve sous l'entrée Polynésie, dans le nouveau Larousse illustré de 1904. En général, les Polynésiens sont de mœurs douces, de tempérament assez indolent. Ils sont généralement agriculteurs, quelquefois pêcheurs, chasseurs, etc. Ils vivent de racines, de fruits, légumes, plutôt que de viande. L'anthropophagie, qui exista jadis dans certains archipels, a disparu. Quelques-uns restent pourtant encore dans un état de sauvagerie invraisemblable. On est allé jusqu'à prétendre, au XVIIIe siècle, que certains insulaires ignoraient jusqu'à l'usage du feu et l'existence d'hommes en dehors d'eux. Aujourd'hui, ils ont été presque tous convertis au christianisme, au moins nominalement. Ils ont conservé leur paresse native, encouragés par la douceur du climat et la facilité de la vie, leur goût pour les fêtes, les ornements, leurs habitudes de polygamie, leurs mœurs d'une extraordinaire licence. Sauf dans certaines îles privilégiées, Futuna, Niua, où l'élément métis s'est notablement accru, l'ensemble de la race polynésienne est en voie de disparition. Non pas seulement en raison des ravages causés par l'alcool et des différentes maladies importées par les Européens, mais surtout à cause des croissements qui en affaiblissent le type. début, l'homme fut créé par Dieu, avec un peu de boue. Il commença par les pieds et termina par la fontanelle. L'homme vivait dans un grand jardin au bord de la mer. Un jour, au cours d'une chasse, une roussette se mit à voler auprès de l'homme et il s'apprêta à la flécher. Mais la roussette se posa sur sa flèche. « Qui es-tu ? » demanda l'homme. « Je suis Tao Tae, je suis Dieu, » dit la roussette. Elle prit alors la forme de la femme et l'homme s'unit à elle. Ainsi commença la lignée des êtres humains dont nous descendons tous aujourd'hui.
Le Papalagui, l'homme blanc. Parole de Tuyavi, chef d'une tribu dans les îles Samoa et recueilli par Eric Schumann en 1920. Quand le mot esprit vient dans la bouche du Papalagui, ses yeux s'agrandissent, s'arrondissent, deviennent fixes, il soulève sa poitrine, respire profondément et se dresse comme un guerrier qui a battu son ennemi. Car l'esprit est quelque chose dont il est particulièrement fier. Son esprit est toujours comme un tube à feu chargé ou comme une canne à pêche prête au lancer. Le Papalagui pense, tant que penser lui est devenu une habitude, une nécessité et même une obligation. Il faut qu'il pense sans arrêt. Il parvient difficilement à ne pas penser en laissant vivre son corps. Il ne vit souvent qu'avec la tête, pendant que tous ses sens reposent dans un sommeil profond, bien qu'il marche, parle, mange et rit. Quand le soleil brille, il pense aussitôt « comme il fait beau maintenant » et il ne s'arrête pas de penser « qu'il fait beau maintenant ». Un Samoan intelligent étend ses membres sous la chaude lumière et ne pense à rien. Il ne prend pas seulement le soleil avec la tête, mais aussi avec les mains, les pieds, les cuisses, le ventre et tous les membres. Il laisse sa peau et ses membres penser pour lui. Le Papalagui pense, mais ne voit pas le paysage charmant dans lequel se déroule son voyage. Avec de telles pensées, il oublie de chanter en compagnie des jeunes le chant des rameurs. Il n'entend pas non plus le joyeux badinage de la jeune fille. La baie et la montagne à peine dépassées, une nouvelle pensée le tracasse. Et si l'orage venait avant le soir ? Dans le ciel clair, il cherche des nuages sombres en continuant à penser à l'orage qui pourrait bien venir. L'orage ne vient pas et le soir, il atteint, s'avahit, sans encombre. Pourtant, c'est comme s'il n'avait pas voyagé, car ses pensées étaient toujours loin de son corps et hors du bateau. Il aurait aussi bien pu rester dans sa hutte à Upolu. Il fait beaucoup d'éclat avec ses pensées et les laisse devenir bruyantes comme des enfants que l'on n'a pas encore éduqués. Quand les palmiers et les montagnes pensent, ils ne font pas beaucoup de bruit.
Na nu
À Raga, on est pénétré à chaque instant par le sentiment diffus, inexplicable, de la divinité. Il y a d'autres endroits dans le monde où ce sentiment peut surgir. Dans la Lande, en Bretagne, ou dans les ravins au cœur de la forêt vosgienne. En Islande, où l'on est si près des bouches à feu de la terre, ou encore dans le désert minéral balayé par le vent. J'imagine que la banquise de l'Antarctique peut donner ce sentiment. À Raga, cela vient de la conjonction d'une nature violente et de la douceur des hommes qui l'habitent. Il y a quelque chose de dénudé dans la pierre noire, la brutalité de la falaise, et en même temps la force des plantes, l'eau en suspens dans l'atmosphère. En résumé, c'est volcanique. Il n'y a pas de volcan à proprement parler sur Raga. Une légende explique pourquoi les volcans sont présents à Ambrim et absents de Raga. Il y a longtemps, deux vieillards irascibles habitaient chacun d'un côté du détroit. Un jour, le vieillard de Raga lança un tison enflammé à son rival. « Tiens, ainsi tu n'auras plus jamais froid !» L'autre, en réponse, lâcha une fumée vivante sur Raga. « Tiens, pour te tenir compagnie la nuit !» Depuis ce temps, les volcans brûlent à Ambrim et les moustiques harcèlent les habitants de Raga. L'esprit divin imprègne ces îles, l'esprit et non pas la religion. À Raga, c'est l'île tout entière qui est un musée et l'île tout entière qui est un temple.
Bruit des marquises, ressac, bêlement, bégaiement des chèvres, grognement des porcs, chant du coq, querelle de cabots, ou hurlement du chien qui vient de recevoir un formidable coup de pied dans les côtes. Criaillerie des merles des Moluques, appel bref et poignant du chevalier errant, Heterochelus incanus, qui vient d'Alaska pour passer ses vacances sur les chauds rivages de la Polynésie. Chèvre, il n'est pas aux marquises de hauteur si inaccessible, de parois si abruptes, qu'un troupeau de chèvres sauvages ne parvienne à s'y déplacer avec une aisance de sauterelle, au point que parfois l'on serait tenté de parler de vol de chèvres. Perchées, immobiles, sur fond de roches rougeâtres, elles soutiennent la comparaison avec n'importe quel chef-d'œuvre de l'art, tant pariétal que magdalénien.
Les marquises, info pratique. Monnaie, franc pacifique. 1 euro égale 119,33 francs pacifiques. Banque. Une banque avec distributeur d'argent à Taiowae, à Kaau et à Tuona. Coût de la vie. A priori, la vie semble chère. Pour notre façon de vivre, les marquises représentent une des escales les plus économiques à condition de consommer local. Remplacer la pomme de terre par l'arbre à pain, le manioc ou le taroua. Oublier le fromage de métropole et se contenter du cheddar. Encore que l'on trouve du gruyère au même prix qu'en France. Et abandonner le yaourt au profit des fruits gratuits des montagnes. Si la marche vous fait peur, un marché de fruits et légumes se tient à Taiowae le samedi matin entre 4h et 6h. Le régime des bananes y est vendu 500 francs pacifiques. On peut aussi acheter du thon sur le quai à 500 francs pacifiques le kilo, soit 4,20 €. Les magasins sont faiblement achalandés, le choix des produits est restreint mais suffisant. De nombreux articles importés sont subventionnés. C'est ainsi qu'une baguette coûte 47 francs pacifiques, au tarif 2006, soit 39 centimes d'euros. Que l'on vienne de Panama, du Chili ou de Nouvelle-Zélande, faites le plein de conserves, chocolat, soda, bière et autres alcools avant de rejoindre les marquises. Gaz, en bouteille de 13 kilos. Possibilité de recharger d'autres types de bouteilles à Taiowae, chez Bigot. Eau, on en trouve dans les villages principaux. Elle est gratuite, mais pas toujours potable, surtout après de fortes pluies. Entretien, réparation, ne pas compter sur une escale technique aux marquises. Ship Chandler, chantier et marina sont inexistants, et c'est tant mieux. Santé, l'hôpital de Taiowae et les dispensaires dans les villages principaux vous fourniront gratuitement deux médicaments contre la filariose et les parasites intestinaux à prendre au bout de 6 mois de présence sur le territoire.
Au commencement, il n'y avait pas d'hommes ni de femmes. Les habitants des îles étaient faits de pierre. En ce temps, les hommes pierres ne connaissaient pas les femmes. Ils ne connaissaient pas non plus le goût de la nourriture cuite. Les hommes pierres se nourrissaient seulement de racines crues et froides comme eux. Parmi les hommes pierres, vivait un jeune homme nommé Coman qui habitait dans la maison de sa mère. Un jour, au cours d'une chasse, il rencontra une femme très belle nommée Penoa. Il l'invita chez sa mère et lui offrit à manger, mais elle n'aimait pas les racines crues qu'il lui donnait. Elle partit dans la mer et, avant de partir, promit de revenir avec la nourriture que mangent les vrais humains de l'autre côté des mers. Elle tint promesse et elle revint en apportant toutes ses nourritures, l'igname, la racine de taro, les bananes et même du gibier qu'elle fit cuire sous la terre après avoir allumé un feu en frottant deux bouts de bois. Dans la maison de Coman, tous voulurent goûter à cette nourriture et la trouvèrent excellente. Alors, Coman et Penoa se marièrent et quelque temps après naquit une première fille nommée Némei. Et tous vivaient dans l'abondance. Mais un jour, tandis que Coman et Penoa étaient allés dans les champs, la grand-mère de Némei la battit parce qu'elle avait uriné sur sa jupe. De là où elle était, Penoa entendit sa fille pleurer et se mit en colère contre les hommes pierres et elle leur dit qu'elle ne pouvait plus rester avec eux et qu'elle s'en retournait avec sa fille de l'autre côté de la mer. Et c'est ce qu'elle fit. Elle s'enfonça dans la mer en tenant le bébé dans ses bras et elle disparut pour toujours. Alors le feu s'éteignit et les hommes pierres recommencèrent à vivre comme avant en mangeant froid. De longues années plus tard, cependant, Némei reparut. Elle sortit de la mer et elle revint habiter chez son père. Et elle épousa un des fils de Coman. Alors commença la lignée des humains qui appartiennent à la fois à la terre et à la mer et qui ont appris à faire du feu et à manger leur nourriture cuite sur les pierres chaudes. Les textes de cette émission sont extraits de Raga, approche du continent invisible de Jean-Marie Gustave Leclésio, Toute la géographie du monde de Guillaume Bigot et Jean-Claude Barrault, Les fleurs du mal, parfum exotique de Charles Baudelaire, Les trois voyages du capitaine Cook autour du monde, racontés par lui-même, Loisirs nautiques, magazine des Globes Flotteurs, Le nouveau Larousse illustré de 1904, Le Papalagui, parole de Tuiavi, chef de tribu des îles Samoa, recueilli par Eric Sherman en 1920, et de L'homme qui a vu l'ours de Jean Rollin.
Les textes vous ont été lus par Paul Corvez et Dominique Le Breton. Au pupitre, Johanna Erdual.
Si vous avez de la toux et de la fièvre, vous êtes peut-être malade. Dans ce cas, restez chez vous. Limitez les contacts avec d'autres personnes. Appelez votre médecin. La maladie guérit en général en quelques jours avec du repos, mais si les signes s'aggravent, que vous avez des difficultés importantes à respirer et que vous êtes essoufflé, appelez le 15 immédiatement. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.
Avec les mesures de lutte contre le coronavirus, Radio G est fermée. Cela signifie que plus aucune émission n'est réalisée en direct. Il est donc possible que vous ne retrouviez pas tous vos programmes habituels. Mais nous sommes toujours à l'antenne. Et pendant cette période, nous continuons de vous accompagner chaque jour avec des diffusions originales ou des rediffusions. Bien sûr, la programmation musicale de Radio G est toujours là. Éclectique et sans pub, c'est le remède idéal pour vous accompagner dans ces longues journées. Sur notre site, vous retrouvez également les podcasts de toutes nos émissions passées. On espère vous retrouver dans des conditions habituelles très bientôt. D'ici là, prenez bien soin de vous et des autres.
Voilà bon. and narrow tunnel for his misfortune, or to take arms against us in our trouble, and by opposing engines, to fly, to sleep, to fly.
Start to roar, the boys all go to hell, and then the kids.